L2 géant. Bienvenue sur L2 géant, le podcast de l'école des lettres. Aujourd'hui, L2 géant reçoit Régis Sauder autour de son film En nous. Bonjour Régis Sauder.
Bonjour.
Alors rendez-vous 10 ans après. C'est un dispositif qui fonctionne assez bien visuellement. On pense notamment aux héros de la série Friends ou des films Harry Potter qui se sont illustrés récemment dans des émissions de retrouvailles. Certes, on parla de fiction pour retrouver non les personnages, mais les comédiens dans la vraie vie. Mais cela permet notamment de regarder en quoi ils ont changé. Et ces changements permettent en miroir aux spectateurs de mesurer leurs propres changements et de les confronter à leurs souvenirs. Alors vous, Régis Sauder, à quel moment avez-vous pensé réunir dans un nouveau documentaire les élèves que vous aviez filmés dans Nous, Princesse de Clèves ?
En fait, cette idée, elle est venue très vite. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à les filmer il y a 10 ans, tous ces jeunes adolescents, à un âge où on est dans l'énonciation des rêves, où la vie se dessine, mais les chemins ne sont pas du tout encore tracés d'une certaine manière. J'avais cette idée dans un petit coin de ma tête. Et les années passant, je n'ai pas vraiment perdu de vue ces jeunes-là. Il y en a avec qui des liens forts s'étaient noués. L'idée est revenue et s'est concrétisée. Un jour, Morgane m'appelle en me disant « Mais j'ai entendu une émission, un podcast, justement, avec une prof qui revient dans le lycée où elle a enseigné 10 ans auparavant. Et c'est super. Tu ne crois pas que c'est le moment qu'on se retrouve, nous aussi ?» Et en effet, cette décennie, elle est très importante pour nous tous. Je crois qu'on a tous traversé des moments importants. Et la société a traversé des moments importants. Et cette temporalité entre 18 ans et 30 ans, enfin, c'est 10 ans qui séparent la fin de l'adolescence et l'âge adulte. Évidemment, c'est une temporalité où il se passe beaucoup de choses pour eux. Voilà, le temps était venu de ces retrouvailles.
Et est-ce qu'on peut vraiment parler de retrouvailles ? Parce qu'on pense à un autre film aussi que vous avez peut-être vu récemment, Adolescente. Il les a suivis. Donc là, il y a un saut dans votre film à vous entre leurs 17-18 ans et leurs 28 ans. Et certains ont gardé contact, se sont vus. Vous avez gardé contact avec certains, mais ils formaient alors un groupe classe. Et maintenant, vous suivez des parcours séparés. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils se retrouvent dans le film ou est-ce qu'en tout cas, ils se retrouvent devant la caméra ?
Le cinéma les réunit dans l'idée d'un récit commun quand même. Tous, par leur parcours, par leur cheminement social, professionnel, nous racontent quelque chose de la société, nous racontent quelque chose de ce que nous aussi on a traversé. Ce « en nous », c'est évidemment le souvenir qu'eux ont laissé à leurs professeurs, et c'est aussi ce qui s'est sédimenté d'une certaine manière, comme le limon, pendant ces 10 années. Je crois qu'on peut parler de retrouvailles, parce que pour eux, c'est aussi un moment réflexif, un moment où il est question de se retourner un peu et d'essayer de comprendre ce qui s'est joué en 10 ans entre l'énonciation des rêves d'adolescence et la réalité de leur quotidien professionnel, familial, amoureux, amical. Je crois que c'est ça que le film raconte.
Vous dites se retrouver et se retourner en arrière. Dans l'écriture du film, vous faites apparaître des images de nous, Princesse de Clèves, ce qui fait qu'on peut voir en nous sans avoir forcément revu récemment Nous, Princesse de Clèves. Vous semblez mesurer le chemin parcouru entre les images d'alors et les images d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez procédé à l'écriture de ce film-là ?
Pour moi, c'est vraiment un film qui mesure cette distance, justement, temporelle et aussi géographique, et d'une certaine manière sociale. Ces jeunes-là ont changé en changeant de lieu, en changeant de position sociale pour certains. Et le film mesure cette distance-là entre ce qu'elles étaient, ce qu'ils étaient adolescents, et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, quels ont été les obstacles à franchir, et qu'est-ce qui se passe d'une certaine manière pour toute cette vie qui se dessine devant eux aussi. Certains sont parents, donc il y a quelque chose d'une prise de conscience aussi, d'un déterminisme social, d'une société qui n'est pas forcément inclusive, comme ils auraient pu l'imaginer à 18 ans. On le voit bien, certains ont pris conscience à un moment que on était dans une société parfois d'exclusion, parfois de racisme, que ce racisme il était très présent et que sans l'avoir vécu à 18 ans, ou en tout cas sans en avoir conscience, les 10 ans parcourus leur permettaient d'avoir un regard lucide aussi sur les obstacles déjà surmontés et encore à franchir d'une certaine manière.
Il y a effectivement plusieurs thèmes qui reviennent, la question de la parentalité, celles qui sont devenues mères notamment, la question des discriminations, la question du parcours professionnel. Est-ce que vous avez procédé par thème ou est-ce que vous avez plutôt procédé par portrait et après vous avez un petit peu monté par thème ?
À vrai dire, moi, je ne me suis pas posé la question des thématiques. Je savais qu'en les retrouvant, chacune et chacun, il y a quelque chose qui se jouait pour les uns et les autres d'un rapport à la parentalité, d'un rapport au couple, d'un rapport à la société. Chacun avait à cœur de parler de son combat, de sa prise de conscience, par exemple, pour Kadiatou, ou la question de la parentalité pour Anaïs, la question du service public pour nombreux d'entre eux qui ont épousé cette carrière. Et je me suis rendu compte, dans le travail de montage, que ça dessinait quelque chose du service public, par exemple. Ça dessinait quelque chose d'une réflexion sur la décolonisation, en tout cas des esprits, d'une certaine manière. C'est des choses qui sont venues dans la matière, pas forcément par une intention initiale dans les questions que j'avais envisagé de leur poser. En fait, moi, je les retrouvais, et à travers leur position sociale, leur métier, il y a quelque chose qui se jouait de leur caractérisation dans l'espace aussi. C'était très important pour moi de les filmer dans leur espace professionnel, dans leur espace social, dans la ville.
Vous parlez de décolonisation, est-ce que c'est un terme qui a émergé au cours de vos échanges, toi, avant le film, pendant le film ou même ensuite ?
Ça a émergé presque tout de suite, parce que ça, c'est une séquence que j'ai filmée en amont du tournage principal, parce que Kadiatou et Armel m'avaient dit « Nous, on va voir cette exposition, le modèle noir à Orsay. Est-ce que tu peux venir nous filmer ? C'est vachement important, parce que par rapport à la séquence dans le Louvre, ça montre aussi ce qu'on a parcouru intellectuellement comme chemin. » Donc elles avaient tout à fait conscience de ça, à la fois pour Armel, que la séquence au Louvre était une séquence qui avait été mal comprise, alors même que quand Armel dit au Louvre « Mes ancêtres étaient ici », elle a raison, puisqu'elle est française. Mais en même temps, elle avait le sentiment de s'être fait un peu moucher par Kadiatou dans cette séquence, et elle voulait prendre sa revanche. Très vite, Kadiatou, Armel m'ont dit « Nous, on est les modèles noirs. » On a quelque chose à dire de cette absence de notre histoire, en tout cas ce sentiment d'absence de cette histoire dans la transmission, dans ce qui s'est joué pour nous à l'école.
L'idée que la parole de ces élèves est précieuse, elle apparaissait déjà dans votre précédent film, aux Princesses de Clèves. Il y avait aussi la parole de l'institution, la parole de l'enseignante, et puis la parole, le langage qui venait du texte classique alors. En nous, on a le sentiment que finalement, c'est leur parole à eux, aux élèves, qui prend le plus de place, et le texte classique est assez loin, et la parole institutionnelle, en tout cas la parole de l'enseignante, apparaît, mais en filigrane. Alors est-ce que vous pouvez expliquer quelle place vous avez donnée au texte, en fait, de l'enseignante?
Le texte classique, pour moi, il est présent. L'école, elle est présente dans le choix de leurs mots aujourd'hui. Qui peut imaginer que leur rapport à l'élocution, elle ne vient pas de l'école? C'est le fruit de l'école, c'est le fruit de tout ce travail, de toute cette transmission. Donc le texte, il est là, c'est lui qui est là en filigrane. Évidemment, la place d'Emmanuel et de son récit est une place réflexive, ce qui n'était pas du tout le cas dans Nous, Princesses de Clèves, où on la voyait à l'œuvre, à la tâche. Là, aujourd'hui, elle intervient comme ça, de façon linéaire dans le film, pour nous raconter que, pour elle, en 10 ans, il y a quelque chose aussi qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle est restée à la même place, mais les choses ont changé. Le système s'est délité. Il y a quelque chose de la possibilité de la transmission qui est de plus en plus compliqué. Cette position réflexive, elle n'est pas propre à Emmanuel, elle est propre au corps enseignant aujourd'hui. C'est un corps en souffrance. Et cette souffrance-là, elle en prend, sa part. Je la vois presque comme une porte-parole aussi de ce qui se joue aujourd'hui dans le service public, à l'école. Je pense que c'est très important d'entendre cette voix, d'entendre Emmanuel dire « on porte à bout de bras ce qui reste du service public ». Moi, ça me touche beaucoup, quoi, parce que c'est... à mon sens, qu'on a de plus précieux, et de voir que cette chose-là, on la maltraite, on n'y prend pas soin d'une certaine manière. Je trouve ça assez bouleversant. Et ce que je trouve bouleversant, c'est les mots d'Armel qui dit « Je suis contente d'avoir étudié il y a 10 ans, enfin d'avoir été au lycée il y a 10 ans, parce que je sais qu'aujourd'hui c'est plus dur pour les gens de ma condition ». Et elle a tout à fait raison. On sait bien à quel point aujourd'hui c'est encore plus compliqué qu'il y a 10 ans pour ces jeunes de trouver une place à l'université, de pouvoir franchir ces étapes que eux ont eu la chance de franchir, pour certains.
Mais quel texte elle dit, Emmanuel ? Est-ce que on a le sentiment que c'est quasiment de la voix off, même si on la voit un petit peu à l'écran, mais de manière très fugace ? Qu'est-ce qu'elle lit en fait ? Est-ce qu'elle lit un carnet de bord, un journal intime ? Il y a quelque chose, il y a une dimension intime, même si c'est un discours réflexif et politique.
Je crois que c'est un discours intime qui résonne, qui peut résonner chez tous les enseignants. Moi, je vis avec une prof de français, et c'est aussi sa voix, c'est aussi la voix des enseignants qui sont toujours là, qui sont au front, qui sont eux conscients des difficultés sociales qu'affrontent leurs élèves, qui sont conscients aussi de la nécessité de pouvoir leur offrir un espace de connaissances, d'imaginaire, un espace préservé, qui soit pas, qui fasse pas l'objet d'une déconstruction, d'une mise en concurrence. Ce que dit Emmanuel, c'est à la fois intime et en même temps très collectif. C'est une voix qu'elle a écrite, hein, évidemment, c'est pas un entretien. Elle a eu le temps de réfléchir à ce qu'elle avait à dire, d'essayer de construire un récit qui puisse à la fois nous indiquer comment la trace de ses élèves, tous ses souvenirs se sédimentent, pour à la fois la rendre plus forte et la rendre capable d'affronter ce qu'elle affronte aujourd'hui, et en même temps... avec une forme d'essoufflement, mais qui est l'essoufflement de la société tout entière, qui est l'essoufflement de Laura, qui est jeune pharmacienne dans l'hôpital public, qui est l'essoufflement d'Abou, qui est infirmier dans l'hôpital et qui fuit et va travailler en Suisse, parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible de travailler dans le service public. Ça demande un effort, un sacrifice qui parfois est trop important.
Une dimension très forte dans le film, enfin, en tout cas, une question qui apparaît de manière très présente, c'est la question de la réussite. Et on se souvient des images de Nous, Princesses de Clèves, quand il y avait les résultats du bac. Ce sont des images assez bouleversantes, qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas d'ailleurs. Et on mesure aussi ce qu'ils deviennent en fonction de cette question de la réussite, de que représente la réussite pour eux. Est-ce que d'abord c'est une réussite sociale ? On a le sentiment que pour beaucoup c'est une réussite sociale, avec cette idée peut-être que la priorité c'était de s'en sortir, mais alors sortir de quoi ? Voilà, peut-être de la cité.
Je crois qu'une des questions, c'est trouver sa place, hein, être en paix avec cette place-là, qu'elle soit professionnelle, affective. Et en effet, eux quittaient une place qui est une place d'insécurité, parce que c'est des quartiers où il y a une insécurité sociale, il y a une insécurité de la vie. Et ils en ont été les témoins privilégiés par rapport à leurs parents, par rapport au corps de leurs parents, par rapport à la fatigue de leurs parents. Et en effet, je crois qu'il y a pour beaucoup un désir d'émancipation, d'aller trouver sa place ailleurs. Et ça, c'est pas facile. La réussite, c'est pouvoir à la fois être aimé pour ce qu'on fait, être aimé pour ce qu'on est. Moi, j'ai en tête la phrase d'Albert qui disait finalement « La seule question qui compte, c'est est-ce que je suis vraiment heureux ?» qui est une grande question du cinéma documentaire. Edgar Morin et Jean Rouge, dans Chronique d'un été, ils en ont fait un film. Et pour moi, c'est une question complètement essentielle. Et cette réussite, comme le dit Armel, rien ne m'a été offert. Ma vie est une succession de luttes. Moi, je trouve ça, encore une fois, je trouve ça très fort, quoi. Je ne sais pas si je peux en dire autant. En tout cas, il y a plein de gens pour qui la vie n'est pas forcément une succession de luttes, en tout cas à l'endroit de la... sans doute de la position sociale, pour eux c'est plus compliqué. Donc être cadre à la caisse primaire d'assurance maladie, c'est une belle réussite.
Vous filmez assez peu les quartiers nord, ou alors de l'extérieur. Je crois qu'il y a une scène où on voit des élèves du film qui reviennent chez leurs parents. On ne voit pas trop les parents non plus. Est-ce que c'était un choix délibéré ou ça s'est fait comme ça ?
En fait, on voit beaucoup les quartiers nord dans le film, mais on ne voit pas les quartiers nord tels qu'ils sont habituellement représentés dans le cinéma ou dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire une barre avec des dealers et des voitures cramées.
C'est pas Bac Nord,
non, justement, c'est une autre vision des quartiers nord. Albert, Morgane, ils vivent dans les quartiers nord, ils vivent dans des résidences sécurisées, on le voit bien. Ils se sont déplacés socialement, ils sont tout à côté de leur lycée, de leur quartier d'origine, mais les quartiers nord, il y a une diversité aussi de sites, d'espaces, et ça n'est pas que l'image qu'on en a. Donc justement, c'est un film sur les quartiers nord. Moi, j'aime bien Morgane quand elle dit c'est Marseille quartier nord. C'est comme une dédicace, parce que oui, elle est encore là, et elle vit cette vie avec Laurie, avec leur petite fille. C'est pas du tout quelque chose qu'on imagine. C'est très important de le montrer comme ça. Morgan et Laura, elles ont plus cette famille qui est si importante, cette perte-là. Ça leur permet aussi, d'une certaine manière, de s'émanciper. La maman d'Abou, qui était quand même un des personnages du précédent film, elle est là, même si elle est dans l'écran du téléphone d'Abou, qui vit en Suisse actuellement. La maman d'Armel, on la voit un peu. Si les parents sont... Ils sont plus, eux, à un âge où ils sont sous l'autorité de leurs parents. Ils sont eux-mêmes parents. C'est un film qui va de l'avant, c'est un film de la transmission. Ils ont quelque chose à transmettre aux élèves du lycée, aux élèves d'Emmanuel, et à leurs propres enfants. Virginie à Lewis, son fils, Aurore à Logan. Donc c'est eux les parents.
Vous parliez de bonheur tout à l'heure. Certains ont l'air, malgré des difficultés qu'ils ont pu traverser, plutôt bien assis dans leur vie. D'autres ont l'air d'être encore aux prises avec certaines difficultés. Deux notamment se retrouvent, elles ne se sont pas vues, elles sont amies, elles ne se sont pas vues pendant un certain temps. Et elles découvrent que pendant ce laps de temps où elles ne se sont pas vues, elles ont eu faim. Et moi, ça m'a frappée quand elle dit ça, elle dit « j'ai connu la faim ». C'est vrai que c'est des jeunes filles issues de milieux populaires, elles ont connu la précarité, etc. Mais c'est terrible quand même d'entendre des jeunes de 27-28 ans aujourd'hui dire « j'ai connu la faim » dans un pays comme la France. C'est vrai que pendant l'épidémie de Covid, on a entendu beaucoup d'étudiants témoigner de la précarité quotidienne dans laquelle ils s'étaient retrouvés. Et ça renvoie à ça, je trouve. Est-ce que ça vous est apparu au même moment? Parce qu'il y a peut-être une conjonction dans le temps de montage et l'épidémie de Covid.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on ne veut pas voir. C'est-à-dire qu'en effet, elles sont des jeunes travailleuses et des travailleuses précaires, des travailleuses qui ont faim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont faim. Il y a des distributions alimentaires devant toutes les universités, devant à côté de chez moi, sans doute pas loin de chez vous. On ne le dit pas ou elles ne l'ont pas partagé, cette expérience, parce que la honte est très présente, parce que c'est très compliqué de dire « j'ai faim », sachant qu'on a un petit garçon, sachant qu'on a une forme de dignité, et que sans doute cette question de la honte, elle est très présente, c'est ce que dit Sarah. Elle raconte aussi la distribution alimentaire de son enfance, où ses parents... aller chercher des colis alimentaires. Donc il y a quelque chose, là aussi, de la reproduction sociale, et c'est très très violent de se dire que, oui, en 2022, des jeunes filles, des jeunes garçons, des gens qui travaillent ont faim. Et moi, je pense que c'est très important de l'entendre. C'est à la fois sidérant, et en même temps, ça permet aussi de rester conscient aussi de la société dans laquelle on vit, qui permet... des réussites fabuleuses, comme on peut les voir dans le film, et en même temps, qui est le creuset de cette précarité-là.
Est-ce qu'on peut dire que ces jeunes-là ont été particulièrement victimes de discrimination ?
Je crois qu'on vit dans une société profondément discriminante, donc je ne suis pas tellement étonné d'entendre le récit de ces discriminations chez eux. À un moment, ils l'énoncent, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont le courage de l'énoncer, parce que là aussi, je crois que c'est très compliqué de dire j'ai faim, c'est très compliqué de dire je suis victime de violences sexistes, de violences racistes. On voit bien aujourd'hui la société est remplie de ces prises de parole qui sont très importantes. Il faut être éveillé, quoi. Moi, j'assume complètement la dimension wokisme du film, oui. Et Virginie, elle le dit textuellement dans le film. Elle me dit quand mon petit garçon est revenu de l'école et qui m'a dit, petite copine qui m'a dit les noirs et les blancs, non. Virginie se dit, mais je suis où? Je me réveille, qu'est-ce qui se passe? Mon fils, en 2022, il a eu 7 ans et il est victime de ce racisme-là. C'est très important de prendre conscience que c'est doublé d'une assignation sociale, d'une assignation à son genre, que tout ça, évidemment, se mélange. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre en charge ce récit-là. Et je crois que c'est très important de l'inscrire dans le cinéma aujourd'hui, dans les textes, dans les prises de parole. C'est fondamental, parce que sinon, ça ne changera pas.
On sent dans leur prise de parole une imprégnation du discours sur l'égalité des chances que l'école peut porter. Et de ce point de vue, c'est plutôt une réussite. Je pense que ça pourrait réjouir beaucoup d'enseignants. On entend aussi notamment dans le témoignage de Kadiatou, je crois, quand elle dit qu'elle a été cadre dans l'audiovisuel et puis qu'elle a fait le choix de quitter ce milieu parce qu'en fait, elle ne devait pas s'y plaire et que ce qu'elle voulait, elle, c'était fabriquer des perruques. C'était quelque chose dont elle rêvait. On ne peut pas s'empêcher de se dire, mais finalement, est-ce qu'elle a beaucoup entendu, quand elle était à l'école et puis peut-être chez elle, « choisis le métier qui te plaît » parce que c'est ça qui est important dans la vie. On se dit, elle a dû plus entendre un discours de réussite, et peut-être de réussite sociale, pour en venir à ce qu'on disait, qu'un discours sur « fais le métier dont tu rêves ».
Je reviens au début de votre question sur leur conscience d'une certaine idée de l'égalité des chances, dont on sait, nous, qu'elle n'existe pas. On vit dans une société d'inégalité des chances, mais qu'en même temps, ces enseignants-là, ils portent cette mission-là de faire en sorte que leurs élèves imaginent qu'ils peuvent réussir. C'est ce que dit Abou. J'ai rencontré plein d'enseignants qui ont eu envie que, justement, je me déplace socialement, que je puisse y arriver. Et je crois que c'est en ça que, à la fois, le discours d'Emmanuel et le portrait que s'adresse des profs qui ont ça à cœur, et c'est très fort. Je ne crois pas que ça soit le projet de la société. Je crois que les profs continuent à essayer de croire qu'ils participent à un système d'égalité des chances, tout en sachant très bien que ce n'est pas le cas. Et qu'individuellement, ils peuvent, j'imagine, essayer de faire germer cette idée que plus tard, on va faire ce qu'on a envie de faire et non pas ce qu'on attend de nous. Je crois que Kadiatou, elle a eu besoin de temps pour comprendre ce qu'elle avait envie de faire. C'est encore plus difficile quand on n'a pas d'exemple. C'est ça qu'elle dit. Moi, je n'ai pas d'exemple de jeune femme noire, adolescente, qui me permet de m'imaginer chef d'entreprise ou, je ne sais pas, responsable politique. Ou, voilà. Et aujourd'hui, elle devient un exemple. Et on le voit bien quand elle rencontre les élèves qui étaient à sa place, à la place où elle était il y a 10 ans. Elle est complètement exemplaire, il la regarde avec des étoiles dans les yeux. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de se dire comment on peut avoir des modèles de réussite quand on vient de ces quartiers-là. Et il en manque cruellement parce que la société, tout simplement, ne fait peu de place à ces parcours-là.
Et en même temps, on se demande si la question de la réussite, elle va finalement jusqu'à dire que l'importance, l'urgence pour ces élèves-là, qui ont grandi dans des quartiers populaires, c'est la réussite sociale. Mais ce n'est pas forcément l'épanouissement. Est-ce qu'on peut se dire que l'épanouissement est un discours qui reste réservé à une élite ?
Je la sens très épanouie, Kadiatou, d'une certaine manière, très, très libre, très émancipée, à la conduite de son parcours et de ses choix. Ouais, c'est ce à quoi tous aspirent. Et en effet, la question, ce serait est-ce que le bonheur est juste contingenté par la réussite sociale, ça, évidemment non, c'est un peu réducteur. Je crois que c'est la combinaison d'une réussite affective, d'une place qui leur permet d'être en paix avec l'endroit d'où ils viennent et l'endroit qui est le leur aujourd'hui.
Et les lycéens d'aujourd'hui qui ont vu en nous, et peut-être nous, Princesse de Clèves auparavant, et les lycéens donc, qui ont l'âge des élèves d'alors, qu'est-ce que vous avez eu comme retour sur la manière dont ils accueillaient ce film ? Est-ce que vous mesurez, vous, la distance, l'autre distance avec...
Ce qui est très beau quand les élèves d'Emmanuel qui sont dans le film ont vu le film, c'était de les voir, encore une fois, avec des étoiles dans les yeux, aux apparitions de Kadiatou, d'Armel, d'Albert. Les protagonistes du film sont des exemples pour eux qui sont encore parfois dans des cités avec... ce désir de quitter ce lieu-là, de pouvoir construire une vie ailleurs. La trajectoire de Kadiatou, elle est complètement exemplaire. Et d'une certaine manière, il manque cruellement d'exemples comme ça, d'épanouissement. Et ça leur donne beaucoup d'espoir. Il y a quelque chose de possible. Et en même temps, ils ont tout à fait conscience, ils le disent d'ailleurs dans ce moment d'échange avec Kadiatou, de tous ces obstacles qui sont très présents et encore plus. De certaine manière, encore plus infranchissable qu'à l'époque. Donc, il y a quand même une forme de lucidité et le film attire notre regard sur pousse à cette réflexion-là, sur cette possibilité d'inverser un peu cette espèce d'assignation comme ça de parcours difficile et d'essayer de faire en sorte que ça puisse un tout petit peu bouger.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il les regarde un peu comme des héros ? Parce que finalement, il y a celle qui a quitté l'homme qui la battait, celle qui fait le métier qu'elle aime et non pas le métier qui lui rapporte de l'argent, celle qui élève son petit garçon seul, celui qui est parti dans un autre pays avec son petit frère loin de sa famille, etc. Celle qui a joué l'aventurière de par le monde. Est-ce qu'il y a cette dimension un peu héroïque ?
Oui, pour moi, ils sont tous des personnages de cinéma. La projection dans le grand écran, c'est ce rapport d'échelle. Ils sont beaucoup plus grands que nous tous. Ils sont tous des héros de la vie moderne, j'ai envie de dire. Ces jeunes-là, je les trouve particulièrement héroïques. Donc évidemment, ces jeunes lycéens, ils sont fascinés par l'image de Kadiatou, par le courage de Virginie. Justement, c'est des héros qu'on peut presque toucher, appréhender. C'est cette place héroïque qui sera la leur peut-être dans 10 ans.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Sur Aile de Géant peut-être.
Merci.
Aile de Géant est un podcast préparé et réalisé par l'École des Lettres. L'École des Lettres est une revue pédagogique, littéraire et culturelle publiée par l'École des Loisirs. La musique au générique est extraite de My Mingus Soul, album du saxophoniste, clarinettiste, flûtiste et arrangeur Philippe Chagne. À bientôt pour un prochain épisode sur Aile de Géant.